Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, fondateur de Nous Demain. Bonsoir. Alors, la semaine a été marquée par le retour à l'école des élèves 15 jours après l'assassinat de Samuel Paty, avec un hommage à ce professeur d'histoire-géographie. Entre-temps, il y a eu l'attentat de Nice, le terrorisme qui a frappé également l'Autriche, sans oublier l'Afghanistan où des étudiants ont été massacrés. Quand on est parlementaire, comme vous, quand on fait la loi, est-ce qu'il y a la tentation de proposer un nouvel arsenal pour lutter contre le terrorisme ?
Écoutez, moi je fais partie des parlementaires qui sont effectivement inquiets qu'il puisse y avoir cette tentation, parce qu'elle est réelle. Effectivement, la première chose que les responsables politiques se disent à ce moment-là, c'est est-ce qu'il ne faut pas encore changer la loi, est-ce qu'il faut comment peut-on montrer à nos concitoyens qu'effectivement nous réagissons et nous agissons. Et bien le problème, c'est que pour agir, il ne faut souvent pas réagir dans la précipitation. Oui, on voit bien que, par exemple, dans la majorité, des propositions vont être faites pour aller dans ce sens. Moi, j'étais déjà très circonspect sur l'idée d'une loi sur le séparatisme, car ce concept me semble intellectuellement très fragile, et que je crois que pour lutter contre la radicalisation ou le terrorisme, ce dont on a besoin, c'est surtout de moyens. Et donc, il y a une loi pour ça, c'est la loi de finances. Je le suis encore plus quand je vois qu'on va y ajouter des dispositions extrêmement répressives qui peuvent, à mon avis, conduire à des abus totaux, comme par exemple ce projet de délit de séparatisme qui mettrait, par exemple, de poursuivre quelqu'un de 5 ans d'emprisonnement parce qu'il veut parce qu'il demande à consulter un docteur du même sexe que lui. Donc tout ça me paraît assez ubuesque, et on risque encore d'avoir d'autres éléments très dangereux pour nos libertés dans une loi proposée par des parlementaires, Jean-Michel Fauvert et Alice Thoreau, sur la sécurité globale, puisque cette loi prévoit des drones qui peuvent surveiller de manière massive les Français, prévoit un certain nombre de dispositions extrêmement liberticides, et donc je suis effectivement inquiet de toute cette surenchère législative et sécuritaire qui, à mon avis, ne résoudra pas les problèmes et risque de menacer nos libertés.
Sur les plateaux de télévision, certaines personnalités ont préconisé la création d'un Guantanamo à la française. D'autres se demandent même si l'état de droit n'entrave pas la lutte contre le terrorisme.
Je suis extrêmement préoccupé par ce type de déclaration, car je pense tout à fait que certains commencent à y songer sérieusement. Quand vous entendez évidemment à l'extrême droite les propositions ou dans la droite dure les propositions qui sont faites depuis certaines années sur le fait de notamment expulser tous les fichiers S, ou alors même de les mettre dans les centres de rétention, on voit bien que ce discours gagne du terrain et qu'il serait absolument terrible. Qu'est-ce que c'est qu'être fiché S ? Une fiché S n'est pas une décision de justice, c'est simplement un outil de renseignement qui fait que vous pouvez à un moment avoir alerté les services de renseignement, parce que soit vous êtes effectivement en lien avec des gens qui ont des activités illégales et terroristes notamment, mais vous pouvez aussi très bien avoir alerté les services de renseignement parce que vous avez parlé à telle personne à un moment sans savoir qui elle était. Vous pouvez aussi avoir eu un lien avec des réseaux qui peuvent être préoccupants, mais ne plus en avoir quelques mois plus tard. Tout ça est fluctuant, tout ça n'est pas fait pour servir de base à des décisions de privation de liberté, c'est fait pour tout simplement être des outils pour le renseignement. Et ce discours gagne du terrain, y compris dans les rangs de la majorité, et quand il se conjugue finalement à une espèce de rhétorique qui consiste à considérer que tous ceux qui, par exemple, mènent un combat pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre islamistes et musulmans, se battent contre le racisme en France, sont traités de collabos. Cette rhétorique est extrêmement détestable, puisque je rappelle quand même que le mot collabo vient de ceux qui ont collaboré avec les nazis en 40, et que en 40, la gauche ou les communistes, par exemple, parce que c'est souvent ceux qui sont attaqué par ceux qui emploient cette rhétorique de collabo. Les progressistes, d'une manière générale, ont été enfermés parce qu'ils ont défendu les juifs dans les camps. Et c'est pas c'est les vrais collabos qui les dénonçaient. Donc tout ça est détestable. Quand vous avez ces mesures qui gagnent du terrain, cette rhétorique qui est utilisée par des ministres comme Jean-Michel Blanquer ou Gérald Darmanin, on finit par se demander s'ils ne passent pas la voie à des mesures extrêmement sécuritaires, comme celle effectivement de la. Madame Guantanamo à la française avec une rétention des fichiers S, et si un jour on n'aura pas des gens au pouvoir, Marine Le Pen ou d'autres, qui finiront par considérer que des gens comme moi, des gens comme tous les militants antiracistes ne devraient pas être fichés S aussi et internés avec les gens dont on soupçonne une complicité avec le terrorisme. Tout ce que je vous dis là peut paraître un peu de l'ordre de la science-fiction quand on le dit rapidement comme ça, mais quand on regarde de près et qu'on réfléchit bien ce qui est en train de se passer, moi je crois réellement que la menace qui pèse sur la démocratie et nos libertés est aujourd'hui tout à fait réelle et que nos dirigeants ne s'en rendent pas compte et ne savent pas suffisamment la stopper.
C'est la raison pour laquelle vous avez signé une tribune dans Le Monde intitulée « La France ne doit pas tomber dans le piège tendu par les terroristes ».
Exactement. C'est exactement pour cette raison-là. Toute cinquantaine de personnalités issues de différents courants de la gauche. Moi, je fais partie de ceux qui... On pensait que Emmanuel Macron pouvait lui offrir un débouché. Je suis, on a quelques-uns dans le cas d'André Sinatra de cette tribune à penser ça. Beaucoup d'autres ne pensent, ne l'ont jamais soutenu. Aujourd'hui, nous nous réunissons à travers ce texte notamment, car nous sommes convaincus qu'il y a aujourd'hui un vrai danger sur nos libertés, que le terrorisme peut, par sa brutalité, son atrocité, finir par ébranler les certitudes de gens républicains sur le fait de défendre l'état de droit et les libertés. Et on voit bien, je vous le dis, comment sa bonne ministre s'empare de la rhétorique de l'extrême droite. Donc j'espère que les solutions que l'extrême droite préconise ne suivront pas. Mais c'est vrai que quand je vois la proximité et la porosité, la manière dont Marine Le Pen s'est, par exemple, félicité des proximités de vue avec Gérald Darmanin lors d'un entretien à Beauvau, on est quand même un petit peu inquiet de ce qui pourrait arriver. Une grande voix du monde intellectuel tiennent aussi des propos étonnants. Quand Marcel Gauchet dit qu'il faut trouver un nouvel équilibre finalement entre la souveraineté populaire et l'état de droit en essayant de sauvegarder les droits humains autant que se peut, oui, je suis inquiet de l'offensive car les terroristes auraient alors réussi leur coup en amoindrissant les libertés de certains et même d'un grand nombre de Français. On ne sera pas armé moralement et intellectuellement pour défendre la liberté qui est pourtant le principe qui doit se tendre dans la société. Donc je suis assez inquiet.
Aurélien Taché, en début de semaine, plusieurs fédérations musulmanes ont dénoncé, je cite, tous ceux qui veulent manipuler les jeunes musulmans et l'opinion publique internationale en laissant croire que les musulmans subiraient en France une politique de racisme d'État ou une politique de haine contre les musulmans. C'était important que ce message soit délivré, notamment par la mosquée de Paris, le RMF et la mosquée de Lyon.
Oui, évidemment. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux qui dénoncent une forme de haine anti-musulmane qui est instrumentale par certains courants politiques en France et qui malheureusement parfois peut être même de manière inconsciente un peu répandue chez une part des élites françaises qui se demandent toujours si l'islam est une religion comme les autres, si elle est vraiment compatible avec la République ou la démocratie. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Ces discriminations-là font énormément de mal à la cohésion sociale et nationale, facilitent d'ailleurs le travail des islamistes quand ils veulent recruter certains jeunes. En revanche, en aucun cas, cette situation n'est comparable avec celle qu'ont connue les juifs, par exemple, sous l'occupation, où véritablement il y a eu les déportations, l'extermination et autres, et ces comparaisons-là sont insupportables. Mais ce n'est pas parce que ces comparaisons sont insupportables qu'il faut minimiser l'ampleur de l'humiliation à l'égard de nos concitoyens de culture musulmane, qui, si par exemple, connaissent peut-être moins l'agression violente que nos concitoyens juifs, c'est certain, et il faut être clair là-dessus, mais ils connaissent certainement beaucoup plus de discrimination dans l'accès au logement, à l'emploi, ou dans les préjugés de certaines élites. Donc il faut vraiment être précis sur ces sujets et raison garder.
Aurélien Taché, on parle peu des menaces liées à l'extrême droite. Est-ce qu'un terrorisme d'extrême droite doit être pris au sérieux? Est-ce que vous redoutez par exemple un attentat similaire à ce qui s'est passé à Christchurch en Nouvelle-Zélande?
Nous avons déjà eu ce genre de choses en Europe, notamment en Allemagne, où le terrorisme suprémaciste et l'extrême droite je crains malheureusement que le climat qu'il y a en ce moment ne fasse que renforcer le terrorisme islamiste et du même coup celui d'extrême droite.
Alors parlons de la crise du Covid. En quoi ce deuxième confinement est-il différent du premier? Pourquoi est-il plus difficile à accepter, Aurélien Taché?
Je pense que il est plus difficile à accepter parce que il y a aussi peut-être l'idée que cette deuxième vague aurait pu davantage être prévue, parce que la première évidemment a surpris tout le monde, mais là on était plus ou moins prévenu qu'il y avait ce risque et que nous n'avons pas forcément pris toutes les mesures nécessaires pour finalement embaucher davantage de personnel hospitalier par exemple, même si il y a des mesures de prise pour leur salaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, voire même pas tout à fait différent, que effectivement il y a aussi une attitude de la part de nos concitoyens, c'est très difficile, et que la manière dont les choses sont gérées, d'une manière très martiale, d'une manière très unilatérale, d'une manière qui associe peu la nation, c'est que effectivement le fait que les forces vives de la nation, les maires, les présidents de région, les syndicats, les Français même soient très peu associés à la prise de décision et subissent finalement ces décisions qui tombent comme ça d'un coup alors qu'elles ont été prises en chambre par le président de la République et quelques militaires, puisque c'est comme ça que ça se passe maintenant, crée de l'anxiété et est mal acceptée. Nous devons pouvoir définir ensemble où mettre le curseur entre finalement une vie sociale qui doit continuer et une protection face au virus.
Qu'attendez-vous du gouvernement pour aider les personnes dont la vie a basculé depuis la crise du Covid, des personnes fragiles qui ont tout perdu et qui en sont parfois réduites à dépendre de l'aide alimentaire?
Effectivement, j'attends beaucoup plus que les 150 euros qui ont été attribués par le gouvernement aux plus précaires des Français. Des millions de Français qui n'avaient jusqu'ici jamais recouru à l'aide alimentaire ont été contraints de le faire ces derniers mois. Il faut donc pouvoir rehausser les minima sociaux à un niveau qui permette vraiment de sortir du seuil de pauvreté. J'avais fait cette proposition à l'Assemblée nationale, elle a été rejetée par le gouvernement et la majorité. Et il faut pouvoir ouvrir ces aides dès 18 ans, car beaucoup de jeunes vont se retrouver en grande précarité. Et puis il faut ensuite pouvoir investir dans tout un tas de éléments qui permettront de faire face à cette pauvreté. Je pense au logement social, je pense à l'emploi qui est aidé, je pense à tout un tas de choses de cette nature-là.
Alors vous avez parlé du logement, Aurélien Taché. Vous présidez le Conseil national de l'habitat, une instance consultative. Le logement est l'un des problèmes numéro un des Français. Vous demandez notamment que le plan de relance prévoie un plan de construction de logements neufs. Ça doit être une des priorités aujourd'hui?
Oui, j'ai par exemple proposé dans la loi de finances la semaine dernière qu'on puisse mettre 1 milliard d'euros pour financer la construction de logements étudiants qui permettrait aux étudiants qui vont être extrêmement précarisés de ne pas renoncer à leur projet d'études s'ils auraient des loyers favorisés. Et je propose aussi que l'État puisse refinancer des logements sociaux. Le président de la République a indiqué dans son allocution sur le séparatisme qu'il fallait lutter contre les ghettos, sauf que pour cela, si on veut arrêter de mettre des logements sociaux dans les quartiers où il y en a déjà énormément, il faut des moyens pour en construire ailleurs et que l'État s'est désengagé qu'avec la réforme des APL menée ces dernières années, il a même plutôt contribué à fragiliser le monde HLM. Donc il faut pouvoir effectivement faire cela. Et je pense que dans les grandes métropoles aussi, il faut continuer à construire. Ne pas hésiter parfois même à recourir à la densité, à la hauteur, pour pouvoir limiter l'artificialisation des sols et avoir davantage de logements produits moins chers dans ces villes où les gens ont aussi besoin de continuer à vivre pour travailler.
Aurélien Taché, vous avez fait des propositions, 72 au total, pour une meilleure intégration des réfugiés. Et quelle est la priorité selon vous pour que cette intégration soit effective?
La priorité des priorités, c'est l'intégration professionnelle et c'est donc effectivement le fait par exemple de pouvoir beaucoup mieux qu'aujourd'hui reconnaître les diplômes, les compétences de ceux qui arrivent et de les accompagner vers l'emploi, de les laisser aussi travailler beaucoup plus rapidement. Quand vous arrivez en France et que vous demandez l'asile, vous ne pouvez pas travailler avant une période de 6 à 9 mois minimum et le plus tard du temps, il faut attendre d'avoir votre statut de réfugié. C'est un temps perdu considérable pour l'autonomie professionnelle. Et il faut aussi que dans nos programmes de formation linguistique professionnelle, nous intégrions des éléments effectivement de formation linguistique, en tout cas que nous intégrions le fait qu'il y a aussi des gens étrangers qui peuvent suivre ces formations et qui ont besoin de modules ou d'accompagnement spécifique pour pouvoir être rapidement
Dernière question, Aurélien Taché, vous avez été élu en tant que candidat de La République En Marche, puis vous êtes éloigné du parti d'Emmanuel Macron, et vous avez fondé ce mouvement Nous Demain. De quoi s'agit-il? Quel est ce mouvement Nous Demain?
Alors, il s'agit d'un mouvement qui, effectivement, veut finalement véritablement réconcilier les Français avec la politique. C'était la promesse de La République En Marche qu'elle n'a pas tenue, parce que s'il y a eu effectivement un certain nombre de Français qui n'avaient jamais fait de politique auparavant, qui se sont inscrits à La République En Marche, il s'agissait quand même essentiellement de Français dont les conditions sociales étaient favorables, et que même pour eux, s'il y a eu des modes de fonctionnement différents de ceux des partis politiques traditionnels, il y a eu aussi beaucoup de déceptions, parce que ça n'a débouché sur rien de concret, et que La République En Marche, si elle a pu comme ça parfois innover dans sa manière de faire, l'a fait sans véritablement s'arrimer à un projet de société, à des valeurs, à des principes. Dans les partis politiques traditionnels, il y avait une grille de lecture du monde, des valeurs, des principes, mais des méthodes et des manières de faire qui étaient dépassées. Nous devons essayer de prendre le meilleur de ce qu'il y avait dans la gauche, par exemple, auparavant, à savoir un véritable engagement pour les droits humains, contre les discriminations, contre l'exclusion. C'est vraiment le cœur de ce que veut porter Nous Demain, et de le faire avec des méthodes, en revanche, totalement différentes de ce qui pouvait se faire par le passé, en s'inspirant et en donnant vraiment la parole à la société civile, à la jeunesse, et en offrant des bouchées politiques à ces combats, plutôt que de lui indiquer comment elle doit les mener.
Merci Aurélien Taché. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise et fondateur de Nous Demain. Bonsoir.